Europe 1,
23h, 1h,
la libre antenne, Sana Blanger.
Chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver ce soir jusqu'à 1h du matin dans la Libre Antenne d'Europe 1. La Libre Antenne, c'est votre émission. Je vous invite à nous raconter ce qui vous chagrine, ce qui vous préoccupe. D'ailleurs, partageons ensemble ce proverbe breton qui dit qu'avec le vent et le temps, tout chagrin s'envole. Vous pouvez aussi venir partager une réussite parce que vous avez enfin osé dire oui ou oser dire non à quelqu'un ou à quelque chose. Ce soir, je vous propose d'avoir une pensée de soutien pour tous ceux qui ont choisi de nous protéger, parfois, au péril de leur vie. Nous sommes là pour vous apporter du réconfort, une écoute, une solution, mais la suite vous appartient. La fine équipe est prête. Julie Escar vous attend au standard et c'est Nicolas qui est aux commandes ce soir et réalise l'émission. Allez, appelez-nous au 3921. Pour nous joindre par SMS, vous pouvez composer le 739921 en commençant par le mot « nuit » et par mail libreantenne@europe1.fr.
23h, 1h, la Libre Antenne sur Europe 1. Sana Blanger.
Avant d'accueillir notre premier auditeur, je vous invite demain à échanger sur le thème de l'échec. Comment l'avez-vous vécu ? Qu'avez-vous mis en place pour vous en sortir ? Ou justement, vous êtes encore embourbé et vous ne savez pas par où commencer ? Venez nous en parler demain en composant le 39-21. Mais maintenant, abordons vos chagrins ou vos réussites et accueillons notre première auditrice qui est Annette. Bonsoir Annette.
Bonsoir. Eh bien en fait, je suis désolée mais j'ai pleuré toute la soirée. Oh. Donc... oui, parce que voilà, mon souci c'est que je suis séparée de mon conjoint depuis presque un an.
Oui.
Et la séparation s'est faite après des violences. Et en fait, quand on s'est séparé, c'est qu'il y avait vraiment eu une crise très violente.
Oui.
J'ai porté plainte.
Oui.
Il a porté plainte contre moi. Je ne sais pas pourquoi, mais probablement pour se défendre.
Certainement.
Et finalement, les violences n'ont pas été reconnues.
Ah.
La seule chose à laquelle j'ai eu droit, c'est une médiation pénale. Et là-dedans, il y a les enfants qui ont 2 ans et 6 ans.
Donc 2 enfants, d'accord.
Ouais. Et en fait, le grand a toujours entendu les colères de son père depuis qu'il est petit. Donc, il devient des fois un peu difficile à gérer.
Mais oui.
Et le souci, c'est que ce soir, enfin, aujourd'hui, comme tous les samedis, pendant toutes les 2 semaines, il y a le droit à un samedi toutes les 2 semaines. Et là, ce soir, il ne les a pas ramenés.
Eh oui.
Il m'a envoyé un message en me disant, je ne les ramène pas, je les ramène demain soir.
Ah d'accord, donc il a décidé comme ça...
Il a décidé de son propre chef de ne pas les ramener. Et j'ai appelé pour dire, bah écoute, nous, on avait quelque chose de prévu demain, on avait un pique-nique de prévu, j'avais prévu toute une journée avec les enfants, et finalement, il me dit, oui, de toute façon, je vais faire signer le procureur, je ferai... voilà, c'est que des menaces,
oui.
Tout le temps.
Oui.
Il ne m'a pas ramené les enfants, donc je lui dis, je voudrais leur parler. Il m'a raccroché au nez. Après, il a finalement rappelé parce que le grand voulait me parler quand même.
D'accord.
Donc, mon grand m'a parlé, m'a dit « Mais maman, tu es où ?» Donc, je lui ai dit où j'étais, que j'étais sur la terrasse, dans le jardin. Voilà. Et il me dit « Tu sais, on n'a pas encore mangé. C'était 20h30. »
Oui.
Donc, je lui ai dit « Bah, écoute, tu vas manger bientôt, certainement. » Et le petit dernier a 2 ans, et je me dis, mais... Il les a pris de son propre chef sans me dire.
Oui, c'est compliqué.
Ce matin, j'ai fait un bisou à mes enfants en leur disant « Bon, bah, ce soir, mes loulous, à ce soir. » En confiance, en me disant que je les retrouve à ce soir. Et le petit qui a 2 ans, il n'est pas du tout préparé à passer une nuit hors de la maison. Donc, et comme il y a un passé de violence assez monumental et que en plus la conversation ne s'est pas bien passée du tout, je suis extrêmement inquiète. J'ai pleuré toute la soirée. Hein, pour vous dire, c'est terrible de me retrouver toute seule à la maison sans les enfants, sans savoir ce qu'ils font. Et sans savoir ce qui se passe, c'est extrêmement difficile pour moi.
Oui, c'est...
Le juge aux affaires familiales prononcera son jugement le 30 août et il a pris sur lui de dévier complètement en les prenant alors que ce n'était absolument pas prévu et je n'ai aucun recours.
C'est la première
j'ai
fois
J'ai même que... fait le 17 et j'ai fait le 17 en leur disant « Écoutez, je ne devrais peut-être pas vous appeler, mais je ne sais pas quoi faire. Allez chez lui !» Bah, je n'ai pas le permis de conduire, donc je ne peux pas conduire. J'ai un handicap visuel trop lourd pour conduire. Donc, et là, c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas quoi faire à part ne plus lui confier jusqu'au jugement parce que j'ai plus confiance.
Vous avez peur ? Vous avez peur qu'il leur arrive quelque chose ?
Bien sûr.
Est-ce que c'est la première
fois ? Ce qui m'est arrivé à moi, j'ai très peur.
Annette, est-ce que c'est la première fois qu'il fait ça ?
Là, c'est la première fois qu'il me les prend sans me le dire.
Enfin, qu'il les garde sans vous le dire, en fait. Enfin, voilà, parce que c'était
prévu. Voilà, c'était prévu. On avait fixé tous les jours jusqu'à la fin du mois d'août, jusqu'au jugement du juge aux affaires familiales.
Oui.
Et tout était prévu, donc logiquement, je devais les récupérer ce soir. Donc tout était prévu. Et je reçois un texto. À la demande express des enfants, bien sûr, à 6 ans et 2 ans, ils vont lui dire « Bien sûr, on veut dormir chez toi, je te les ramène toi demain soir. »
D'accord, donc il justifie le fait de les garder par l'envie exprimée des enfants, en fait.
Mais oui, et l'envie, en plus, les enfants n'avaient... Enfin, le petit avait un rechange toujours, parce que je donne toujours un change, parce qu'il est petit... mais le grand n'a pas de rechange, il n'a pas de pyjama là-bas. Et puis en plus, ce n'était absolument pas prévu. Enfin, moi, après, le jour où le juge va rendre son jugement, s'ils doivent aller passer un week-end sur deux, je le ferai. Mais là, ce n'était pas du tout prévu comme ça. Les enfants n'étaient absolument pas préparés.
Et vous
donc,
non plus.
On parle toujours de l'intérêt supérieur des enfants quand on juge. Mais là, il est où leur intérêt ?
Il est violent, ou il était violent uniquement avec vous, pas avec les enfants ?
Bah, il était avec moi, parce que s'il était sur les enfants, j'étais toujours là. Donc,
D'accord.
Donc c'est difficile pour moi de juger ce qu'il est capable de faire.
Bon, là, manifestement, de toute façon, j'ai le sentiment que vous n'allez pas réussir à les récupérer ce soir, en tout cas.
Ah bah non, ce soir, c'est fichu.
Vous n'avez pas de permis de conduire. Et est-ce qu'éventuellement, vous avez une personne qui peut venir vous chercher et vous amener...
Là, ce soir, non. Là, non.
Non.
Là, je ne peux rien faire. Là, enfin, honnêtement, mes parents sont partis en voyage.
Oui.
Je suis vraiment... C'est vrai que là, maintenant, je pense que les enfants doivent dormir. Enfin, je l'espère. Enfin, je l'espère.
Je l'espère aussi.
Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Et c'est ça qui est très difficile pour moi, c'est que je ne sais pas ce qui peut se passer. Et le petit qui est habitué à son lit, qui est habitué à ses doudous, enfin, qui pensait qu'il rentrait ce soir, je ne sais pas. Peut-être qu'il va pleurer toute la nuit, que son père va s'énerver, je ne sais pas. Il est tellement colérique et très... il m'a même menacé au téléphone ce soir. Donc, il n'est absolument pas calmé, absolument pas prêt à faire des concessions. Comment voulez-vous organiser une garde ou avoir de la confiance quand c'est comme ça ?
Est-ce que vous savez s'il vit seul ?
Oui, il vit seul.
Il vit seul ? D'accord. Oui. Bon, là, manifestement, vous ne pouvez malheureusement rien faire. Donc, on va essayer ensemble de voir ou d'envisager les choses positivement. D'accord ? Dans cette situation, qu'est-ce qui peut être positif ? Est-ce que c'est d'aller trouver une solution pour aller les chercher, donc éventuellement les réveiller en pleine nuit et peut-être perturber, les perturber ?
Je ne vais rien faire cette nuit.
D'accord.
De toute façon, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Donc, je suis obligée d'attendre qu'ils me les ramènent demain.
Ouais.
Par contre, moi, je suis en train de me dire que je devais lui confier plusieurs jours au mois d'août. Et je suis en train de me dire si je ne peux pas lui faire confiance, qu'il ne me les ramène pas quand il doit me les ramener. Parce que là, pour moi, c'est une rupture de confiance. J'étais déjà pas très confiante en lui confiant la journée.
Déjà que c'était pas facile.
Eh oui. Là, c'est, pour moi, c'est plus qu'une rupture de confiance. Donc, du coup, je suis en train de me dire, je ne sais pas si j'ai raison, que je ne vais pas lui reconfier au mois d'août et que je vais les garder avec moi. Je suis en vacances, donc première heure de mes vacances, super. J'ai pleuré toute la soirée pour première heure de mes vacances, c'est super. Mais je suis en train de me dire que je crois que je ne vais pas lui redonner de tout le mois d'août. Et puis on verra quand le juge aura rendu son verdict. Et je pense que je vais peut-être même aller déposer une main courante pour dire, voilà ce qui s'est passé.
Bah, la main courante, de toute façon, oui. Vous avez appelé la police ou pas ?
Oui, j'ai fait le 17.
Vous avez fait le 17, hein, effectivement. Et la police, qu'est-ce que vous a répondu ?
Bah, le juge n'a pas donné son avis, donc il a tous les droits.
Ah, d'accord.
Je dis même de ne pas me prévenir, de me prévenir juste à l'heure où il doit les ramener. Ah oui, il a tous les droits. Donc ils m'ont dit, allez chez lui, voir si ça se passe bien. Bien sûr. Comme je ne conduis pas, c'est impossible. Donc, aller chez lui. Puis, de toute façon, j'y serais allée, il ne me les aurait pas rendus, hein, de toute façon. Donc,
Non, puis j'aurais probablement une grosse dispute encore devant les enfants. Donc, ça, c'est vraiment des situations ubuesques.
Ah non, mais c'est ouais. Ah non, mais c'est horrible. Je ne
comprends.
Sais plus quoi faire.
Bon. Tout ce qui reste à faire, malheureusement, c'est d'envisager que ça se passe bien, Annette. Vraiment, si vous ne pouvez pas vous déplacer, si en plus la police vous dit que il a le droit, c'est ubuesque, hein, on est bien d'accord.
Bah, c'est ubuesque, et s'il arrive quelque chose, personne n'est là.
Bon, c'est leur père. On peut éventuellement envisager, hein, je sais que c'est pas évident pour vous, je comprendrai parfaitement, Annette, que ça puisse vous énerver, mais... Bon, il a exprimé le fait qu'il répondait à une envie des enfants. Donc, je dirais que positivement, si on voit ça en regardant le verre à moitié plein, il aime ses enfants, il a envie de leur faire plaisir, il les garde, il se fiche de vous, ça c'est une évidence.
Il se fiche d'eux aussi, puisque demain on avait prévu quelque chose.
Ah bah, égoïstement, il les garde. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez, par exemple... qu'il pourrait leur faire quelque chose s'il a envie de les garder pour lui, en fait.
S'il est énervé parce que le petit se réveille la nuit, parce qu'il l'empêche de dormir, oui. Il est capable de piquer une colère. Et ça, je le sais.
Oui.
Et c'est bien ce qui m'inquiète, c'est bien ce qui n'a pas été reconnu devant la justice. Aujourd'hui, je suis très démunie parce que... J'ai déposé plainte. Il a déposé plainte contre moi parce que, soi-disant, je lui avais écrasé le pied en lui marchant dessus. Donc, avec mes 47 kilos, je ne vois pas comment je lui aurais écrasé le doigt de pied. Mais bon, voilà. Il a porté plainte contre moi. Ça a été reconnu. Ça s'est terminé en médiation pénale parce que le procureur n'a pas eu envie d'avoir une affaire de plus. Et aujourd'hui, on en est là. Et maintenant, il me menace de faire un signalement au procureur. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs.
Bah c'est pour vous intimider, c'est clairement pour avoir le pouvoir, bien évidemment.
Bien sûr, bien sûr. Mais le truc, c'est que là, pour le coup, c'est lui qui a le pouvoir, il a les enfants.
Bon, on peut imaginer que ça passe après par de l'instrumentalisation des enfants par la suite, mais est-ce que vous habitez dans la même ville que lui ?
Non.
Il est à combien de kilomètres ?
Au moins 5 kilomètres.
Il y a un SMS qui vient d'arriver et qui dit « Et si vous alliez les chercher en taxi ?» ou au moins aller voir ce qui se passe. Mais il ne faut pas y aller seule, en revanche.
À cette heure-là, je ne peux pas. Je suis toute seule, bon, je ne peux pas. Oui, j'aurais bien aimé.
Ben oui. Et est-ce qu'il vous répond par SMS si vous lui écrivez?
En fait, il m'a répondu ce soir parce que j'ai demandé à parler aux enfants. Donc,
d'accord.
Il a commencé à vouloir me parler en me menaçant de se tenir au procureur. Je dis, écoute, je ne veux pas te parler à toi. Ce que je souhaite, c'est parler aux enfants. Donc, il m'a raccroché au nez. Et 3 minutes après, le téléphone a sonné de nouveau. Et en fait, j'ai eu mon grand au téléphone qui m'a dit, mais maman, t'es où? Je dis, je suis sur ma terrasse avec j'avais des voisins avec moi, la grande des voisins qui était avec moi et tout, qui joue tous les jours. Hein. Donc, je dis, écoute, est-ce que tu reviens demain matin pour le pique-nique? Parce qu'on avait pris le pique-nique toute la journée, donc voilà. Mais a priori, il doit me les ramener demain matin et pas demain soir. Mais là, je sais pas, il a fait un coup de force qui est très déstabilisant pour moi et qu'il n'aurait pas dû faire parce que c'était pas le deal, enfin c'était pas ce qui était prévu. Enfin, je lui ai, il avait son samedi, bon là c'était normal, hein, logique. Après, il avait, comme il travaille, donc j'avais proposé les mercredis, le 15 août. Et en plus, j'avais prévu des jours où il travaillait pas. Le 15 août, c'est férié. Donc, oui, il pouvait aller prendre son premier jour de congé. Enfin, j'ai essayé de vraiment tout faire pour organiser mes vacances à moi avec celles des enfants et ses possibilités à lui. Et là, il me prend les enfants ce soir sans me le dire. Des enfants qui sont si jeunes, notamment le petit, ça se prépare. Quand on passe pas lui chez maman, on lui habite dans son lit, ça se prépare.
Ça n'est que le début, Annette. Hein.
Ouais.
Oui, ça n'est que le début. Il va falloir être très très forte, malheureusement. On sait que quitter un homme violent, c'est déjà très compliqué et que c'est bien plus difficile parfois après, mais il faut rester courageuse. Ça n'est que le début de la guerre, si je puis dire ainsi. Donc, vous allez aller certainement de surprise en surprise, mais des mauvaises, hein, bien évidemment. Il va falloir être armé. Et ce qui est terrible, c'est effectivement ce qu'on découvre. Hein,
La non-reconnaissance de la justice.
C'est horrible. Terrible.
Je ne suis même pas reconnue comme victime.
Oui. Bon, il y a un vrai débat qui va se jouer là, dans les prochaines semaines. Mais là, c'est vous et il y a une situation d'urgence. Et je ne sais pas quoi vous dire, hormis courage. Éventuellement, on peut faire un appel... demander solidarité des auditeurs si quelqu'un habite sur votre ville, qu'elle nous contacte et que vous puissiez aller les voir, par exemple. C'est tout ce que je peux faire à mon niveau.
Je voulais simplement témoigner parce qu'on entend tout le temps parler de violence conjugale. Combien de femmes sont mortes encore cette année? Si je n'avais pas réagi il y a un an, peut-être que je serais morte aujourd'hui. Et je me dis, mes enfants n'auraient plus de maman, donc ce serait très bien. Super. Ouais. Mais aujourd'hui, il m'a pris mes enfants. Il ne peut pas être du tout arrêté par rapport à ça, parce que finalement, il a tous les droits pour l'instant.
Ouais, c'est...
Mais moi, je suis prête. Après, je ferai ce que dira le juge d'affaires familiales. Pour l'instant, il n'a pas rendu son verdict. Et ce qui est terrible, le jour où on est passé chez le juge, il n'est même pas venu. Il n'est pas venu.
Oui.
Par contre, quand il a fallu aller porter plainte à la police ou faire la confrontation, il est venu avec son avocate. Donc moi, je me retrouve toute seule au pénal. Par contre, lui, par rapport au JAF, il ne vient même pas, ne prend même pas la peine de venir.
Ah non, mais c'est...
C'est hallucinant. Et là, par contre, ce soir, de son propre chef, il décide de prendre les enfants et de ne pas me les ramener. Il ne prévient même pas le matin. Mais c'est vraiment... Où est l'intérêt des enfants là-dedans?
Là, on est effectivement en droit de se poser, encore une fois, toutes ces questions. Nous avons à l'antenne une auditrice qui souhaiterait intervenir en direct, qui souhaiterait vous parler, Annette.
Au contraire.
Et donc, nous avons Florence avec nous. Bonsoir, Florence.
Oui, tout à fait. Oui, bonsoir.
Merci,
bonsoir.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Oui, bonsoir. Je vous écoute parfois, je m'endors d'autres fois. Et là, j'ai tout de suite été interpellée par l'appel d'Annette. Première question qui me vient à l'esprit. Pourquoi Annette, sachant ce qu'elle sait, et puisqu'au mois d'août, rien n'était prévu, ça n'a été que verbal, si j'ai bien compris, avec le papa.
Elle c'était écrit aussi. C'était écrit aussi.
Ah, c'était par écrit par qui? Par lui?
Oui.
Par qui?
Non, par mail. On s'était échangé par mail.
Oui, non, mais
pour les journées.
Par la justice.
Alors, c'est important. Ça, c'est vrai que c'est une trace écrite et que oui. S'il s'était engagé, c'est important pour la suite. Mais pour l'heure, là, maintenant, tout de suite, il n'a pas tenu ses engagements. On est bien d'accord.
Oui.
Il ne les a pas tenus. Malgré oui. votre volonté de laisser voir ses enfants, de le laisser quelques heures faire avec eux ce qu'il veut faire en tant que papa, il ne tient pas ses promesses, il ne tient pas ses engagements. Ne pas tenir compte de ce qu'a dit la police ce soir, dès demain à la première heure, vous présenter au commissariat de votre ville et faire noter. Alors, je ne sais pas s'il faut rentrer dans une plainte immédiatement. Ça, il faudrait voir sur place avec la personne qui vous recevra. Mais il faut notifier demain impérativement.
C'est évident.
Pour moi, non seulement c'est évident, mais c'est vital, c'est crucial. C'est crucial parce qu'il faut qu'avant que le JAF, fin août, dise ce qu'il aura prévu pour ce papa, vis-à-vis de ses enfants, ils tiennent compte de votre bonne volonté, du fait qu'il a eu les enfants, qu'ils se permettent de dire qu'un enfant de 2 ans et de 6 ans décide qu'ils veulent rester chez papa, c'est du n'importe quoi. Et que vous savez...
J'ai prévu d'aller déposer une main courante, mais je ne peux pas le faire demain, parce que demain, on est dimanche, et que
je n'ai pas de bus pour emmener
là où je peux.
Ah non, non, mais... écoutez, alors vous prenez un taxi, Annette, là. Excusez-moi, c'est votre rôle de mère. Ne me parlez pas des bus, je vous en prie.
Florence,
je ne sais pas ce que ça en pense.
Mais vous avez vécu ça, parce que je vous sens très...
D'une certaine façon, oui.
Oui, c'est pour ça.
D'une certaine façon. Et c'est essentiel. Et maintenant, enfants sont très grands, il n'y a aucun souci. Je ne saurais dire simplement à Annette qu'elle ne me réponde pas, qu'il n'y a pas de bus un dimanche matin. C'est essentiel que demain matin, il soit notifié par une autorité telle que la police, que les enfants ne sont pas rentrés hier soir comme c'était prévu sur le mail et que ce matin encore ils ne sont pas là, qu'elle est en souci, qu'elle a peur, que de surcroît elle n'a pas de voiture pour se déplacer et qu'il n'a pas tenu ses engagements. Ça, c'est basique. Qu'on soit le 14 juillet, le 15 août ou un dimanche et qu'il n'y a pas de bus, ça m'est complètement égal. Annette, vous êtes une maman. Avant tout. Et je ne sais pas, il me semble.
C'est bien sûr.
Je me permets d'être...
Ouais, j'entends bien. J'entends bien, je partage. Mais c'est vrai que j'ai des difficultés pour me déplacer, ce qui est...
J'entends bien. Mais vous n'êtes pas seule dans la vie. Enfin, je ne sais pas. Vous êtes seule dans la vie. Vous n'avez pas d'amis, eux. Vous n'avez pas demain matin la possibilité de prendre un taxi, exceptionnellement. Vous n'avez pas une famille, une tante, une cousine,
une personne ressource, une personne,
un frère, enfin c'est essentiel, Annette. C'est essentiel ce qui se passe là. Ce n'est pas un hasard. Ça se reproduira et de manière beaucoup plus flagrante.
Bien sûr.
Alors, vous me dites bien sûr, et vous me dites demain matin il n'y a pas de bus. Alors non, moi là, je ne peux pas. Je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas entendre en tant que maman. Ce n'est pas possible.
Ouais. Florence,
oui.
Je peux comprendre que ça vous rappelle de très mauvais souvenirs, certainement.
Peu importe.
Comprends. Là, vous êtes petit peu dur avec Annette. Ouais, vous êtes
mais
un petit peu dur.
Justement, elle a toute la nuit pour se reposer sur mes paroles, un peu dures.
Ouais.
Mais enfin, c'est essentiel. Enfin, s'il se passe quelque chose cette nuit avec les enfants, qu'est-ce qu'elle dira demain?
Ce sera trop tard demain.
Je vous rassure,
Florence. Demain, ce sera trop tard, hein, s'il se passe quelque chose cette nuit.
Florence, nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faille absolument...
Mais j'irai. De toute façon, c'est clair que je ferai un signalement.
Voilà.
Clairement. C'est prévu.
Vraiment. Donc, c'est une évidence qu'elle ira déposer main courante. Voilà.
Bon. Ah oui. Vous êtes dans Annette, vous êtes dans une ville, dans un village, vous êtes dans quoi? Vous vivez, quel est géographiquement? Je veux dire, sans me dire où vous êtes, les 5 kilomètres là, c'est rien 5 kilomètres, ils ne sont pas faisables à pied pour que vous puissiez aller constater que ça dort?
Alors, j'ai autre chose. Annette, dites-moi, est-ce que vous avez un ordinateur chez vous?
Oui.
Bon, alors vous savez qu'aujourd'hui, on peut déposer main courante.
En plus.
Par mail, hein. Enfin par, sur internet. Oui, oui. Donc voilà, donc vous pouvez le faire dès maintenant, en fait.
C'est vrai, j'ai oublié.
Voilà.
Ça, j'ai pas le
donc vous allez sur internet.
Le site.
Et en fait, alors, on va se renseigner au standard pour vous donner exactement.
Oui, d'accord.
Mais vous pouvez déposer en main courante directement par sur internet, hein.
Ouais.
D'accord.
Absolument. Ah oui, ça, ce serait mieux, parce que pour moi, pour moi, ça serait beaucoup plus facile.
Oui, oui, oui.
Non, mais c'est essentiel.
De toute façon, je ferai, si je peux le faire par Internet, je le fais dès ce soir.
Vous le faites maintenant.
Et par contre, j'irai de toute façon au bureau de police, parce que le bureau de police sera ouvert aussi la semaine prochaine, et j'irai compléter ma main courante.
Voilà.
En disant ce que je vais faire.
Tout à fait. Parce que l'intérêt de cette démarche.
Vous savez, madame, je sais bien, j'entends bien ce que vous me dites. Et je comprends bien votre façon de me dire, je suis pas vexée, hein. Je comprends bien votre façon de me dire.
Mais
pour l'instant, j'attends, j'essaie de vous dire que mes enfants vont rentrer à 10h.
Bien
je veux qu'ils passent une bonne journée.
Oui.
Et je veux essayer de tout faire pour que ça se passe bien demain. Et après, mais de toute façon, je le ferai.
Oui.
Il n'en reste pas moins que c'est essentiel. Pourquoi, Annette? Parce qu'il faut que ce qui se passe ce soir, cette nuit, demain matin, il faut absolument que le juge le sache avant de décider.
Absolument, mais je suis complètement d'accord.
Voilà.
Mais il le saura. C'est le 30 août qui rend sa décision.
Annette, à ce qu'en parallèle de votre main courante, et Sana a raison, moi j'ai pas le réflexe, je suis trop âgée, mais en parallèle, vous pouvez écrire directement au procureur.
Je vais le faire.
Hein?
Je vais le
vous
faire.
Vous lui dites, en termes de fait, ne soyez pas jugeante, ne dites pas, il fait ci, il va faire ça, j'imagine, vous rendez compte, vous dites simplement, voilà, on s'était arrangé, je veux que les choses se passent bien, qu'il voit ses enfants, que ses enfants le voient, il s'est engagé à me les ramener à telle heure, voilà, il est telle heure de la nuit, il ne me rappelle pas, il m'a appelé parce que le petit voulait me parler, les faits, des faits.
Que des faits, il faut rester factuel.
Que des faits.
Merci,
je suis complètement d'accord.
Voilà.
Et ça, je vais le faire aussi.
Je vais le faire aussi. Je suis désolée d'avoir été si ferme.
Mais non,
avec
mais
des
je suis
pareil,
pas.
Avec des
c'est pas un problème, mais c'est bien, mais vous avez raison. J'ai quand même des gros soucis pour me déplacer, c'est compliqué
bien
pour
sûr,
moi,
mais
avec une main courante par Internet, retourner
tout
au bureau de police mercredi pour leur dire.
Voilà.
On est d'accord.
Tout ça, je peux faire.
Florence,
voilà. Je le ferai.
Florence, je vous remercie.
D'autant plus qu'il m'a menacé de faire officiellement procureur.
Complètement. Mais tout.
Mesdames, vous m'entendez?
Oui, moi je vous entends.
Florence, je vous remercie infiniment de votre appel. Vraiment.
Je suis désolée, je suis un peu ferme.
Non, mais Florence, merci.
Mais c'est tellement
il n'y a pas de souci.
Encore une fois, la Libre Antenne, c'est votre émission et vous avez très bien fait d'intervenir parce que
voilà,
vous êtes passé par là, vous savez ce qu'il en est. Donc,
tout à fait,
au contraire, donc un grand merci à vous, Florence.
Ce ne sont pas des gens qui s'arrangent avec le temps.
Malheureusement.
Non.
Malheureusement.
Mais ça n'est pas une fatalité non plus.
Mais ce n'est pas une fatalité, on peut faire ce que l'on a à faire, ce qu'on a le droit de faire. Merci, Sana, bonne soirée.
Bonne soirée, Florence.
Au revoir, Annette.
Annette.
Au revoir.
Tenez-nous au courant, s'il vous plaît.
Oui.
D'accord. J'espère vraiment que vous aurez des nouvelles même ce soir par SMS, en tout cas, voilà.
Oh, j'aurai pas de nouvelles. Maman.
Bon, on ne sait jamais, mais dans tous les cas, tenez-nous au courant, s'il vous plaît.
D'accord.
D'accord.
Ok.
Bon, de bonnes choses. Je croise les doigts pour vous et puis je vous embrasse.
Ok, ça marche. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Europe 1, la libre antenne.
Sana Blanger.
Avant d'accueillir notre notre prochain auditeur, je voulais partager avec vous une petite méthode très simple et accessible à tous pour se faire du bien après un moment un peu tendu ou qu'on est stressé ou alors quand on est un petit peu fatigué. Mais en fait, une technique très simple, il vous suffit de frotter les mains de façon très énergique jusqu'à ce que vous ressentiez un peu de chaleur. Et puis, une fois que la chaleur arrive, eh bien, il suffit de les poser pendant 10 secondes sur vos yeux. Et puis vous allez voir, vous allez ressentir une petite sensation de douceur apaisante. Et nous accueillons tout de suite Elisabeth. Bonsoir Elisabeth.
Oui, bonsoir Chana.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci.
Alors,
Oui.
Dites-nous.
Alors, moi, j'avais déjà essayé d'intervenir une ou deux fois, mais bon, comme j'ai beaucoup d'ennuis de santé, parfois, je suis obligée d'aller à l'hôpital en urgence, donc voilà. Mais je reste toujours très, très à l'écoute de toutes vos émissions.
Merci beaucoup.
Voilà, et les cas comme, c'est, comme ils se sont passés ce soir et hier, tout ça me... Faut penser à ma vie et ma dispose aussi parce que je me rends compte que à l'heure actuelle les choses ne sont pas mieux ou pas beaucoup mieux qu'il y a très très longtemps parce que moi voyez-vous j'ai 70 ans.
Oui.
Voilà et par contre bon même si les même si la dame est intervenue un peu rudement c'est vrai en quand elle a parlé avec la jeune femme là, qui n'avait pas récupéré ses deux enfants.
Annette.
Florence
qui a appelé,
oui. Oui, mais oui en dernier. C'est vrai qu'elle a été... Bon, on peut penser qu'elle a eu une répartie un peu rude, peut-être, pour la jeune femme. Mais c'est tellement important pour les enfants. Parce que moi, on a voulu aider ma mère pour ce que j'avais subi,
oui.
Et tout ce qu'on pouvait penser qu'il allait s'en suivre. Et ma mère, sous un prétexte quelconque, a dit « Oh non, 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 voilà. Non, c'est pas possible. Et puis, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Et puis, après, où je vais aller ?» Elle s'est mise à pleurnicher. Et puis, voilà. Seulement, elle s'est pas rendue compte si. Mais ce qu'il en a suivi, c'est que toutes les générations suivantes ont souffert de tout ça.
Quelle est votre histoire, Elisabeth ?
Ah ben oui, justement, voilà. Moi, je vais démarrer maintenant mon histoire, mais voilà, je parle de ça parce que ce que j'ai entendu ce soir, c'est exactement à des choses près, pas tout à fait pareil. Mais ce sont les conséquences de quand on veut pas agir tout de suite. C'est vrai que c'est difficile, qu'on peut pas dire tout de suite, oui, je fais ça pour les enfants. Mais pour les enfants, il faut tout faire. La dame qui dit qu'elle ne peut pas se déplacer, je comprends, je suis comme elle, j'ai subi des opérations invalidantes et tout, je ne peux plus bouger. Mais moi, maintenant, s'il m'arrivait un truc comme ça, mais je marche à quatre pattes. Bon, on a quand même le téléphone, on peut appeler un taxi. Moi aussi, je suis isolée maintenant, j'ai plus de famille, j'ai perdu mon fils, voilà. Mais je trouverai quelque chose.
C'est
pour
vrai
y arriver.
Vous nous avez...
Voilà, pour les enfants, pour les enfants, voilà. Il faut les sauver, les enfants. Un enfant de 2 ans et de 6 ans, ils ne peuvent pas se sauver. Ce n'est pas possible s'il
c'est
arrive
sûr.
Quelque
c'est
chose.
C'est certain.
Alors, au nom de ma voix et de toutes les autres qui pensent comme moi, bah, pour les personnes qui sont un peu plus... Bah, qui ont plus peur, je comprends, hein, parce que c'est des moments douloureux.
Oui, c'est très douloureux.
Mais qu'on laisse un peu cette douleur de côté, elle fait qu'on dise, non, d'abord les enfants, Après, on aura le temps de pleurer sur soi-même, qu'on a mal agi, qu'on a eu mal aux jambes. Oui, pardon, excusez-moi.
Non, je vous en prie, je sens bien que c'est très, très animé, très habité tout ça. Mais en fait, je repensais à ces chocs traumatiques parfois que l'on a. Ah. Vous savez, elle ne s'y attendait pas du tout, Annette. Donc
oui.
Il peut y avoir une forme de sidération. Vous savez, ce moment où on est en sidération, on ne sait pas trop comment faire. Et puis Florence, on sent bien également qu'il y a du vécu. Qui s'est passé des choses. Hein. Donc c'est pour ça que c'était un peu un cri.
Oui, mais bon, moi je dis un peu de la même façon, c'est-à-dire, bon, je reconnais que la dame, elle a peut-être été elle a été un peu rude, comme elle a dit. Elle a dit, moi, j'ai voulu être comme ça, c'est pour éviter ce qui peut arriver. Ouais. Mais des jeunes femmes, maintenant, avec tout ce qu'on entend, elle a parlé, cette dame-là, qui a deux jeunes enfants, qui a des femmes, maintenant, une femme qui décède tous les trois jours. Donc, plus ou moins, elle est au courant de ça. Elle regarde la télé, tous ces problèmes que maintenant, ils sortent d'inceste et tout, ce que vivent les enfants et les générations qui ont suivi, pour les anciennes comme moi, par exemple. Ouais. Moi, derrière moi, il y a trois générations. Et il y a trois générations qui ont souffert. Moi, de ma petite enfance, moi, mon père a bousillé. Mon père m'a tout simplement violée. Et en faisant beaucoup de psychothérapie, parce que j'étais très malade, j'étais hospitalisée en psychiatrie, enfin beaucoup de choses comme ça. Et à un moment, on m'a même fait, comment on appelle ça, où on vous endort un peu quelque part, en vous parlant, on arrive à retracer...
De l'hypnose.
L'hypnose, voilà, oui. C'est vrai qu'il y a tellement de mots maintenant.
C'est vrai.
Et j'ai réussi à descendre jusqu'à mes 3 ans. Vous vous rendez compte ?
Oui.
Vous vous rendez compte ? Et quand ma mère et quand les gens de ma famille ont su ça un peu plus tard, mais elle a rien voulu faire. Et elle a fait pas douter que derrière elle, il y avait ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et que tous ces enfants-là ont souffert, plus ou moins.
Alors,
Alors moi, j'ai souffert de ça, donc avec un père...
Vous, Elisabeth, en fait, vous nous avez contacté suite au témoignage de Christine. Pour les auditeurs qui écoutent La Libre Antenne, hier soir, nous avons eu le témoignage incroyable, également très fort, de Christine. Et en fait, vous vous êtes... ça a fait écho chez vous.
Oui. Ah, mais complètement. Puis j'ai dit, et puis aussi de la dame hier soir. Alors, je pense pas que ça soit Christine, mais qui
première.
Elle en est. Ah oui. Alors non, c'est l'autre dame que elle a fait un mariage forcé par sa maman.
C'était Christine.
C'était Christine. Et qui s'est retrouvée dans son lit de jeune mariée.
Absolument.
Avec un deuxième monsieur,
avec
son mari lui avait imposé. Bon, et moi, ça m'a révoltée, parce que moi, j'ai vécu ça, en fait, pas avec deux personnes comme ça, imposées, mais qui, par ma mère, n'a jamais voulu accepter ce qui s'était passé par la suite.
Oui.
Et mon fils est décédé il y a 10 ans, je le dis franchement, il s'est suicidé. On n'a pas su exactement pourquoi, mais nous, son père et moi, dans notre fond, on sait pourquoi. On a des doutes en tout cas, parce que on l'a laissé notre fils une fois à ma mère, alors qu'on n'aurait pas dû. Mais comme moi, je ne voyais plus personne depuis plus de 20 ans, enfin, après mon mariage, non, bien avant mon mariage, enfin bon, bref. Et une fois, j'ai demandé, alors ma mère m'a dit, écoute, si tu veux, je peux te garder, enfin bon, bref. J'ai dit, je veux bien, mais tu fais très attention, tu fais attention à notre père. Elle n'a pas fait attention, parce que notre gamin nous a dit ce qu'il a subi. Enfin, et à sa meilleure amie. Et quand j'ai su ça, quelque temps après, il s'est suicidé. Alors, il a pu se suicider pour un tas de raisons. Mais moi aussi, quand j'ai pris conscience de ce que je devenais, j'ai fait des tentatives de suicide à 15 ans, une autre à 19 ans, 20 ans, et puis une terrible, alors là, parce que là j'avais 36 ans, parce que là je divorçais. À la suite d'un divorce, parce que là, c'est pas parce que j'ai souffert d'un divorce. Si, j'ai souffert d'avoir perdu mon mari, d'avoir divorcé, parce que je l'aimais, mon mari. Mais parce que je ne pouvais plus, voilà où mon père m'avait démoli. Parce qu'il m'a démoli ma vie de petite fille, ma vie de jeune fille, ma vie de jeune femme, ma vie de femme, et puis ma vie de femme qui vieillit. Voilà. Parce que maintenant, je me retrouve tout seule, bien sûr. Quand j'en avais parlé avec mon psy, il m'a dit, vous savez, c'est fort ce que vous dites. Mais attention, vous allez tout perdre, peut-être. Je vous jouais au... Comment dire? Vous jouez au... Comment on dit? Le truc russe, la roulette russe. Parce qu'il m'a dit, vous pouvez vous mettre tout le monde contre votre dos, ou alors tout le monde pour vous. Et hélas, dans ma famille, pourtant mes frères et sœurs, et j'en ai 5, ils ont tous plus ou moins subi, maintenant je ne sais pas s'ils ont subi la même chose que moi, mais en tout cas, ils ont eu des attouchements de notre père.
Quel drame.
Alors, ils ont peut-être pas eu comme moi,
Oui.
Parce que moi, étant l'aînée de mes filles, voilà, j'ai subi, mais alors vraiment, après je vais m'étaler un petit peu plus, mais de toute façon, ça ne change rien aux problèmes, aux conséquences, de toute façon.
Oui.
Et comment dire, c'est ce que j'ai fait quand ma mère, trois mois après le décès de mon fils, c'était le lendemain de Noël, je pourrais vous le dire, 26 décembre, à 17h25 exactement, ma mère qui me dit encore, mais toi de toute façon t'es la plus menteuse, et puis après tout j'étais pas là pour le voir.
Bravo.
J'ai hurlé, hurlé comme jamais plus j'ai hurlé et comme jamais j'avais hurlé avant. J'ai claqué la main sur la table et puis j'ai dit, c'est terminé, je ne viens plus chez toi, je ne viens plus, j'ai plus aucun des membres de ma famille, et surtout ne venez pas pleurer sur mon fils, ne venez pas pleurer sur la tombe de mon fils, parce que vous n'êtes que des fauchetons, je suis désolée, hein, je dis les mots comme ils sont, après je m'arrêterai là, mais vous voyez jusqu'où ça en est allé, et il y a 10 ans j'avais quand même 60 ans,
oui.
Voilà, et pas pris encore de décision. Et maintenant, je m'en veux, parce que je me dis, parce qu'avec mon ex-mari, je suis en très très bonne relation. Et on en a encore parlé dernièrement. Et il m'a dit, tu sais, si on n'avait pas fait cette bêtise-là, notre fils, peut-être, on l'aurait eu. On l'aurait encore. Parce que, évidemment, moi, il m'en reste deux. Et toi, t'en as plus. Parce que lui, s'est remarié, tout ça, voilà.
Vous avez combien d'enfants, Elisabeth?
Moi, un seul.
Un seul ?
Oui, c'est pour ça que je me retrouve toute seule.
Ah oui.
Mais je ne regrette pas quand même d'avoir complètement coupé les ponts avec ma famille. Je ne regrette pas. Parce que 60 ans, souffrir comme ça, non. Là, maintenant, j'ai 2-3 amis. Eh ben, quand on veut m'inviter à boire un café, je n'ai pas besoin d'envoyer un Bristol. Vous voyez ?
Oui.
C'est serein. Voilà. Mais encore maintenant, et j'ai beaucoup suivi toutes les émissions qu'il y avait, maintenant ça sort un petit peu plus, les viols et compagnie,
oui,
les gens qui... Voilà, hein, donc, et moi je me revois parce qu'il y a souvent des dames qui ont 40, 50, 60 ans, l'autre fois il y avait une dame de même de 75 ans qui passait à la télé pour raconter et tout ce que ça avait fait sur elle, tout ce que ça avait causé, raté dans sa vie, raté dans son boulot, raté dans le social, et même les conséquences de notre santé.
Absolument.
Parce que effectivement, j'ai été opérée.
Oui, oui.
Voilà, effectivement, j'ai été opérée. J'ai subi beaucoup d'opérations orthopédiques, hein, c'est-à-dire les
pieds.
Les genoux, les prothèses complètes, les prothèses sur une hanche et au niveau du dos, des plaques dans le dos, mais surtout le dos, hein, avec des broches. Alors, évidemment, tout devient très douloureux. Mais maintenant, ça fait 3 ans que j'ai subi la dernière opération. Mais je deviens de plus en plus difficile à marcher. Je peux marcher peut-être, allez, 20 minutes dehors.
Oui.
Alors, vous voyez comme mon temps est restreint.
Bien sûr.
Et dernièrement, j'ai eu l'occasion d'aller, parce que là, je vais être aussi suivie sur un centre antidouleur. Et quand j'ai eu le médecin en fin de la première séance, je lui ai dit, mais pourquoi toujours ces douleurs alors que je devrais... Bon, je comprends que je puisse avoir de temps en temps des douleurs, mais pourquoi qu'ils me paralysent presque plus qu'avant? Et là, un jour, il m'a dit, vous êtes sûr que vous ne faites pas... Vous savez, il y a une maladie que maintenant on commence à prendre en considération quand les gens... ont des douleurs partout et que jusqu'à présent, on ne savait pas mettre un mot dessus. On disait que c'était des maladies, un peu comme il y a 50 ans pour la migraine, que c'était des maladies de femmes du lundi matin qui ne voulaient pas des boulots, quoi, des trucs comme ça. Je sais plus, c'est aussi une maladie neurologique de toute façon,
oui,
on va dire.
Oui,
hein.
Oui.
C'est pas le cerveau qui a on ne devient pas hystérique, hein. C'est pas ça, hein.
Oui.
C'est pas voilà. Mais c'est des douleurs qu'on a. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on traîne quelque chose derrière nous, un mal-être, quelque chose qu'on n'arrive pas à retirer, et que on aura beau faire des opérations et tout un tas de choses,
oui,
et ben on va traîner ça. puis après, ben, on traîne ça plus ou moins bien, selon aussi après notre âge aussi, voilà. Et puis pour, par rapport à tout un tas de choses aussi, d'autres maladies peut-être, moi ça va, j'ai que ça, mais en attendant, je marche presque plus par rapport à ce que je faisais avant, mais c'est incroyable. Et tout ça en l'espace de quelques mois, tout ça est arrivé. Alors donc, bon, c'est vrai que j'ai fait quand même des grosses dépressions, et quand j'ai fait ma dépression à 35 ans, alors là, j'ai été soignée par électronarcose, c'est-à-dire, je pense que c'est des électrochocs.
Oui, c'est...
C'est ce qu'on nous endort un peu. Mmh. On nous met des trucs sur les tempes.
Oui.
Alors là, il y a des espèces de manifestations que moi, je n'ai pas vu les miennes, mais que j'ai vu une fois à la télé. Mmh. Alors apparemment, on doit faire comme des crises de... comme ceux qui font... comment on appelle ça ? Qui perdent le contrôle d'eux-mêmes... Comment ça peut être ? C'est des petites crises d'épilepsie.
Ah oui, voilà. D'accord.
Et ça pour intérêt de démolir en nous ce qu'on a de négatif. Mais c'est vrai que ça démolit aussi une part de notre intellect.
Ah oui, parce que j'ai envie de vous dire que comment est-ce qu'on se sent après ? On doit se sentir
encore plus. Après, par contre, je me rappelle très bien, parce que ça remonte maintenant à presque 40 ans, hein. Mais je me rappelle qu'après ça, elle me disait comment vous vous sentez, quel âge vous avez, comment vous vous appelez, l'âge de votre enfant, là. Et que je répondais bien, bon, et puis après, bon, et puis une fois, quand j'étais chez mon médecin, je lui ai demandé, mais à quoi ça sert ? Il m'a expliqué. J'ai dit, bon, bah, mais quand même, hein, ça démolit un petit peu l'intellect quand même. Hein. Mmh. Mais il m'a dit, cet intellect-là, vous allez le récupérer. C'est vrai que je l'ai récupéré en partie, mais pas tout à fait. Et là, je me rends compte que maintenant, la vieillesse arrivant, alors des fois, je me dis, ah, c'est Alzheimer ou truc comme ça, mais non, c'est pas Alzheimer. J'ai fait des trucs, enfin, des examens avec un médecin qui m'a dit, non, c'est tout votre passé, tout ce qui a...
Qui remonte, en fait.
Qui remonte. Voilà. Ouais. Mais bon, de faire des électronarcoses, d'accord, c'est bien, parce que moi, j'avais qu'une idée, c'était mourir. Mais je ne voulais pas me donner la mort, moi. Hein. Alors, je ne mangeais plus, je ne faisais plus. Alors, plus rien. Et jusqu'au jour où on m'a retrouvée chez moi, j'avais perdu 25-30 kilos dans un état pas possible, puis comme hospitalisée d'urgence. Voilà. Et donc, voilà. Mais enfin, tout ça pour vous dire dans quel état. Alors, bien sûr, au bout de 10 ans de mariage, mon époux, je ne voulais plus, moi, par rapport à ma vie. J'aimais mon mari, je le dis encore. Bon, maintenant, je le vois comme un ami, hein.
Oui.
Mais à l'époque, j'aimais mon mari. Mais ce qui était intenable, moi, je ne pouvais pratiquement pas avoir de relation sexuelle.
Elisabeth,
je ne pouvais pas me comporter. Oui.
Elisabeth, restez avec nous.
Oui.
On poursuit dans un
oui.
instant notre échange.
Oui.
D'accord ?
D'accord. Oui, chacun. Oui, merci.
À tout
à l'heure.
Europe 1,
23h, 1h.
La libre antenne. Sana Blanger.
J'ai failli oublier de vous dire que demain, nous nous retrouvons autour du thème de l'échec. Comment l'avez-vous vécu ? Qu'avez-vous mis en place pour vous en sortir ? Ou justement, vous êtes encore embourbé et vous ne savez pas par où commencer. Donc on se retrouve demain en direct sur la libre antenne. Et il suffit de composer le 3921 pour nous joindre. Nous retrouvons... dans un instant, ou tout de suite, donc nous retrouvons Elisabeth. Elisabeth,
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1, Sana Blanger.
Elisabeth, vous êtes toujours avec nous ?
Oui,
alors,
voilà.
Elisabeth, nous avons une invitée.
Oui.
Eh bien, c'est Christine qui est avec nous.
Oui, bonsoir.
Christine, bonsoir.
Bonsoir, Elisabeth.
Nous étions ensemble
bonsoir,
hier.
Christine. Voilà. Oui.
Bon, ce soir, nous avons beaucoup de chance parce que ça interagit énormément. Donc, c'est vraiment...
Ben oui.
C'est fantastique. Comment allez-vous, Christine?
Moi, ça va.
Depuis hier?
Je vais quand même vous dire une chose, c'est que hier, j'étais très discrète sur tout ce qui m'est arrivé.
Ah ben oui.
C'était qu'un échantillon.
Oui. Oui, oui, mais on a douté, on s'est douté, madame. Moi, je me suis voilà. doutée. Parce que moi, j'ai senti, parce que moi, je l'ai vécu. Parce que je n'ai pas encore raconté tout à fait ce que moi, j'ai vécu par la personne, mon père. Je peux dire que c'est mon père, de toute façon. Mon géniteur, parce que maintenant, je l'appelle comme ça. À la limite, j'écris X. Alors, vous voyez jusqu'où ça va. Hein. Et si maintenant, je vous dis tout ce que moi, j'ai subi, alors là, on n'en finirait pas.
Non,
de toute façon, vous avez violé des jeunes enfants, c'est pas normal. Violer des personnes, c'est pas normal, hein, non plus, attention, hein, je ne dis pas ça. Déjà, des violeurs, pour moi, bon, je vais arrêter là parce que je pourrais avoir des paroles qui me seraient après reprochées. Mais déjà, les violeurs, enfin, pour moi, ce sont des personnes faibles, qui traduisent par leur violence, disons par leur bêtise, par leur faiblesse. Comme ils sont violents par les mots et par leur physique, parce que généralement, bon, bah, c'est des mecs, ou alors ils savent décupler ou tripler leur force, bah, bien sûr, sur nous, un coup de poing à la figure, voilà. Nous faire peur avec nos enfants quand ils nous violent, quand ils nous frappent. Bah, c'est vous, madame, qui disiez hier que justement, il y avait une femme sur trois qui mourait en France. Donc, vous voyez bien que vous connaissez la réalité. Hein. Et là-dessus, je suis contente que quand j'entends qu'il y a des personnes qui comprennent, qui savent que la réalité existe. Et vous, ce que vous avez fait, vous avez, protégé vos enfants. Ça, c'est bien. Mais est-ce que vous n'avez pas peur? Parce que je me rappelle de l'émission de celle-ci. Je m'excuse. Hein,
Non, je vous écoute, Sana.
Oui, oui.
Non, mais je ne me rappelle plus votre prénom, mademoiselle Sana. Oui, Sana. Excusez-moi. Oui, je m'excuse, là, je parle, mais si vous avez quelque chose à dire, n'ayez pas peur de me couper.
Ah, mais bien sûr, vous pouvez compter sur moi.
D'accord. Mais vous disiez que vous vouliez protéger vos enfants, mais ça c'est bien. Mais encore faut-il que vos enfants ne souffrent pas de vous voir vous souffrir.
C'est ce que j'ai dit hier soir, mes enfants en avaient souffert.
Oui, et pourquoi vous ne leur dites pas, par exemple? Parce que vous savez, moi je veux dire, par rapport à mon âge, j'ai 70 ans. Nous avons le même âge.
Oui, vous avez le même âge, toutes les deux.
D'accord. Alors moi, je ne sais pas si vous aviez une grande famille, ça je me rappelle plus, mais moi j'ai encore j'ai mes 5 frères et sœurs, et bien que je ne veux plus entendre parler d'eux, je ne leur souhaite pas de mal, rien du tout. Mais je sais que moi, je l'ai vécu, parce qu'on a tous eu des enfants, des petits-enfants, enfin voilà, et ma mère là-dedans, ça faisait presque jusqu'à la 4e génération. Et nos gosses, qui ne voyaient pas leurs grands-parents, se posaient des questions. Nous poser des questions, pourquoi est-ce que ma mère venait toute seule et on ne voit plus pépère, parce que dans l'Est de la France, on parle comme ça. Hein. Et c'est des gosses, bon, quand ils étaient petits, poser des questions comme ça en disant, il est fatigué, il a travaillé cette nuit, bon, d'accord. Mais les enfants, quand ils grandissent, ne les prenez pas pour des gamins qui n'ont rien vu. Et il faut savoir que les enfants, jusqu'à 6 ans, ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient surtout, ce sont des éponges. Et ils le prennent, je ne veux pas dire à 100%, ils le prennent à 200%.
Ah mais ça, j'en suis consciente.
Alors, j'interviens justement. Alors,
oui,
vous avez vécu à peu près les mêmes drames. Mmh. Parce que ce sont des drames. Pour les auditeurs qui nous écoutent, si nous devions avoir vraiment des messages à transmettre,
en dehors de tout ce que j'ai subi, puis ça, de toute façon, on n'a pas fini d'en entendre, et c'est pas la peine que je raconte les miens, parce que de toute façon, un viol, c'est un viol. Hein. Jusqu'à 20 ans, j'ai un père qui a essayé de me coincer à tous les niveaux. Quand je fréquentais un garçon, je me suis retrouvée dans mon lit avec avec une balle de fusil dans mon lit. des lettres anonymes écrites avec des mots, mais alors orduriers, mais c'était lui, qu'est-ce que vous voulez. C'est un peu comme je vous disais tout à l'heure à la dame. Ces gens-là, comme ils sont bêtes, ils ont une très grande faiblesse et ils se croient intelligents, forts en faisant des choses comme ça. Voilà, parce que là, bah bien sûr, sur des enfants, sur des jeunes femmes, sur des jeunes hommes, ils ont la force. Et alors là, ils arrivent à tout ce qu'ils veulent. Voilà. Mais c'est bien, faut bien se rendre compte des dégâts que ça peut faire après. Moi, je veux dire, j'ai un père qui m'a poursuivi, même marié. Il envoyait encore des lettres à mon ex-époux pour lui dire que, de toute façon, que j'étais qu'une qui m'avait ramassé à la pelle, enfin je sais plus trop quoi les mots, mais j'ai gardé toutes ces lettres. C'est mais incroyable. Je les ai gardées parce que mais c'est une horreur parce que ça vous poursuit. Oui. Et moi j'ai mon fils qui était au courant de ça. Et ça a été, c'est pour ça que je me rends compte de l'erreur de ne pas parler. Et quand je reprochais ça à ma mère à la suite du suicide de mon fils, parce que mon fils, il avait 37 ans, il avait 35 ans. Et il était quand même médecin anesthésiste, donc c'était pas, oui. Il avait quand même une, voilà, il avait quand même un savoir, je veux dire. Il était, moi je disais, t'es moi en multiplié par 1000. Voilà.
Elisabeth, mais qu'est-ce que vous auriez fait de différent alors ? Vous auriez porté plainte contre votre père ?
Oh là 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 là. Moi je dis, non je ne vais pas dire le mot là parce que ça serait trop dramatique, mais ces gens-là ne méritent pas de vivre. Voilà.
D'accord.
Et alors bien sûr, quand les parents et qui le savent ne veulent rien faire, sous prétexte que... Ma mère, elle avait encore 2 enfants en bas âge. Alors, ah oui, mais tu comprends, moi, je peux pas maintenant, il faut que je garde ton père, qu'est-ce que je fais autrement? Elle s'est pas rendu compte de ce que ça pouvait passer. Mais quand, au décès de mon fils, qu'elle me dit encore, mais de toute façon, moi, j'étais pas là pour le voir. C'est-à-dire que même avec un gamin, son propre petit-fils, qui se suicide, elle me dit que je suis une menteuse devant toute la famille. Que de toute façon, j'ai toujours été une menteuse et que je suis une menteuse. Une hystérique, parce que j'ai fait de la psychiatrie. Ça aussi, hein, je garantis qu'on traîne hein, quand vous faites de la psychiatrie. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça vous reste dans votre vie. Hein, parce que moi, on m'appelait de ma famille.
Aussi, madame.
Mes frères et sœurs m'appelaient toujours, l'hystérique. Hein. Voilà. Pardon, madame.
Je disais que moi aussi, j'ai fait de la psychiatrie.
Ah ben oui, oui madame, maintenant si vous voulez qu'on on va en parler. Mais on va
non,
en parler.
Mais je disais que contrairement à vous, moi j'ai fait la paix avec mon passé.
Ah mais moi je ne l'ai pas fait. Il y a eu trop de dégâts dans ma vie. Moi je suis pas
prête. Ben oui, mais si vous voulez, je pense que chacun réagit selon son caractère aussi. Et que même moi, ayant eu vraiment beaucoup de dégâts dans ma vie... Moi, j'ai voulu faire la paix avec ça. Je ne veux pas que ça m'empoisonne.
Alors vous, Christine, hier, vous nous avez appelé parce que vous avez vécu également quelque chose d'assez délicat, un mariage forcé, alors que vous aimiez quelqu'un, un avortement forcé. Alors que, voilà, vous attendiez un enfant de cet homme dont on vous a séparé. Mmh. Et puis, cet homme vous a ensuite imposé... des relations sexuelles avec d'autres hommes pendant des années.
Pendant 35 ans.
Pendant 35 ans, voilà.
Jusqu'à donc, ce qu'il décède.
Jusqu'à sa mort, absolument.
Mm-hmm. Mais par contre, écoutez... moi, mon but actuellement, c'est uniquement de réconcilier mes enfants avec une autre image de leur père. Et j'y arrive.
Vous y arrivez ?
Oui.
Bah, écoutez, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Mais... dans les hôpitaux que j'ai fait, les trucs de psychiatrie, après j'ai beaucoup travaillé parce que moi aussi je suis j'étais aide-soignante, donc j'ai travaillé en psychiatrie à Strasbourg notamment, entre autres, mais à Strasbourg. Et là, je peux dire que j'en ai vu. Eh bien, j'en ai vu déjà. À l'époque, elles avaient à peu près un tout petit peu plus jeunes que moi. Eh bien, j'en ai vu des jeunes, des gamines qui me racontaient leur vie, qui me racontaient par où elles étaient arrivées. Est-ce que ça avait... Alors maintenant, si vous avez réussi à faire la paix, tant mieux. Si vous sentez que vos enfants vivent ça pas trop mal, sans laisser de séquelles, eh bien, tant mieux pour vous. Mais à mon avis, c'est pas... sais pas si vous regardez les émissions qu'il y a eu tout cet hiver. Ben vous avez peut-être vu comme moi toutes ces personnes qui venaient parler lors d'émissions sur ce sujet-là, sur la 2, beaucoup il y en a eu sur la 5.
Ouais.
Eh bien, c'était encore des femmes de nos âges, madame, de votre âge, du mien. Et puis, il y avait même une dame encore de 75 ans qui pleurait de la vie qu'elle avait subie et que ce que toute sa famille après a subi à cause de ça, parce qu'on n'a pas sorti une parole. Parce que voilà, alors vous, ça a marché très bien. Moi, je vous souhaite que du bien. Moi, je ne suis pas... Là, ce soir, je n'ai pas téléphoné pour dire que ce que vous faites, c'est mal. Et
mais
que,
pas du
et
tout, que, là, je ne le prends pas comme ça.
Donc, oui, voilà. Il n'y a pas de jugement. Voilà. Elisabeth, vous savez, j'étais en train de penser à quelque chose pour vous. Il y a beaucoup de colère et elle est légitime.
Mm-hmm. Ah oui, il y a beaucoup de colère. Enfin, la colère, je l'aurai tout le temps. Hein.
Ouais. Et
alors que moi, je n'en ai plus.
Oui, vous, Christine, en revanche, vous en êtes plutôt bien sortie et vous avez réussi enfin à trouver de la sérénité ou en tout cas de l'apaisement. Vous nous disiez hier que d'ailleurs, vos séances de MDR vous avaient beaucoup aidé.
Oui.
Alors, Elisabeth, est-ce que on vous a fait faire des séances de MDR?
Oui, moi, on m'a fait faire beaucoup de choses. Mais voilà, on m'a toujours dit que j'avais un très fort caractère et que je n'étais pas sujette à oublier ça de façon... Et surtout quand j'ai vu la suite, moi, la suite que ça a donné.
Alors,
si ça n'avait touché que moi, ça aurait été... Bon, j'aurais été violée, j'aurais été raconté ça à mon mari à l'époque, bon, ben voilà, et puis la suite aurait continué. Mais c'est que ça ne s'est pas arrêté là, vous comprenez?
Bien sûr.
C'est qu'après, il y a eu...
Eh oui.
Et après, il y a eu chez mes frères et mes sœurs, mes neveux.
Oui.
Et l'apocalypse, c'est quand mon fils est parti à cause de ça.
Ben ça.
Alors vous avez un enfant, et c'est pour ça tout à l'heure j'ai téléphoné pour l'autre dame qui avait au téléphone, qui n'était pas très enclin à se manifester pour savoir ce que... Enfin, elle avait un petit peu peur, je pense. C'est normal, pas tout le monde peut avoir...
Pour Annette.
On peut être un peu déstabilisé par ça, comme vous disiez tout à
l'heure.
Hein.
Annette, je pense vraiment qu'elle était en état de sidération, vraiment.
Oh, voilà, alors elle était certainement sidérée par ça, et elle n'a pas pensé à dire ce que l'autre dame qui est intervenue, en lui disant, mais c'est vos enfants, en fait, n'importe quoi, mais agissez tout de suite.
Oui, oui.
Et c'est vrai que cette dame, elle a reconnu, elle a dit, après, excusez-moi, j'ai parlé un peu trop fort, mais moi, vous voyez, je suis passée par là, et moi, il faut que je défende, les gosses, il faut qu'on les défende, nos enfants, c'est notre chair, faut les défendre.
Alors, justement, Elisabeth,
je pensais à
cela. Donc, les séances de MDR, on vous répond, vous avez un caractère trop fort pour pouvoir atténuer et apaiser tout cela. Alors, vous avez de la colère. Cette colère, vous pouvez l'utiliser. Est-ce que déjà le fait de vous exprimer là, à l'antenne, est-ce que cela vous fait du bien?
Oui, ça me fait du bien, bien sûr. Autrement, j'aurais pas parlé comme ça ce soir.
Alors.
J'ai écrit des tonnes de depuis l'âge de que j'ai pris conscience que mon père, ce qu'il me faisait, c'était pas bien. Parce que j'ai pris conscience que ce qu'il me faisait, c'était pas bien. C'était à ma communion. Et quand je lui ai demandé pourquoi tu me fais ça, parce que maintenant j'ai compris que c'est pas normal. Parce qu'avant, il me disait que c'était normal qu'il m'apprenait la vie. Et j'ai eu mes premières angoisses à 11 ans. Et j'ai pas compris d'où ça venait, ces angoisses-là. J'étais petite fille, mais j'étais déjà très... Parce qu'il y avait tous les autres enfants qui étaient derrière moi et que j'étais déjà habituée à les cerner. Puis ma mère a toujours se plaint. Enfin, bon, bref. Et quand mon père, il m'a dit ça, à ma communion, je l'ai attrapé. Je lui dis, mais pourquoi tu me fais subir tout ça? Parce que c'est pas normal, c'est pas vrai. Et il me dit, parce que ta mère, c'était une personne pas bien. Et ce qu'elle m'a fait, je te fais subir. Mais vous croyez que ça, on peut pardonner un jour? Alors, oui, si j'allais à l'église, peut-être, on me dirait, non, tu n'oublies pas, mais il faut te pardonner. Il faut pardonner. Mais tu n'oublies pas, bien sûr, parce que le mal qu'on t'a fait, tu ne peux pas l'oublier.
Oui.
Mais il faut le pardonner. Mais moi, on a dû me faire des électrochocs pour éviter que je pense à me tuer.
Oui.
Parce que par trois fois, j'ai fait des tentatives de suicide assez... Alors deux, vraiment, en prenant des médicaments et où j'ai subi vraiment des trucs qui m'ont réveillée à temps. Et le troisième, ben, sans parler à personne, je me suis laissée mourir dans mon lit. Et ben voilà, quand le médecin est arrivé en urgence, les pompiers et tout, j'avais plus que 7 de tension. Je réagissais peine à ce qu'on me parlait. J'avais perdu au moins, je sais plus combien, si c'était 25 kilos ou quelque chose comme ça. Vous croyez que c'est pas horrible de la part de parents de faire subir des choses comme ça et les conséquences, et d'une maman qui étant au courant de ça vous dit encore 30 ans après, mais je t'ai pas vu, mais vous croyez que mon père a appelé pour le voir me faire ce qu'il me faisait?
Tout le monde vous donnera raison, Elisabeth. Tout le monde.
Bah, je sais bien. Alors, je vais me calmer un petit peu maintenant. Non, je vais me calmer. Et puis, je ne vais pas trop vous là. Voilà. Non,
bon, parce que je vais alors, surtout dire maintenant. Là. Moi, je voulais revenir à mon idée, qui oui. était en tout cas une suggestion que j'ai à vous proposer par oui. rapport à cette colère que vous avez. Ça peut être une colère très constructive, pour le coup, qui est en fait soit de vous associer ou de vous rapprocher d'une association d'aide aux victimes, justement, parce qu'elle peut vraiment être très, j'ai oublié le terme, vous savez, le fait d'être extrêmement positive et de donner de l'énergie aux autres. Je pense que vous en avez besoin.
Je vais vous dire moi une chose. Moi, c'est dans le travail que je me suis exprimée.
Qu'est-ce que vous avez fait comme travail?
J'étais beaucoup à l'hôpital.
Ah.
Je travaillais à l'hôpital. Et j'ai fini ma carrière hospitalière, alors je travaillais plus à l'hôpital, mais j'étais avec les personnes âgées.
Ouais.
Alors les maladies Alzheimer, Parkinson,
en plaques. Ah oui, tout ce qui est neurologique.
Et c'est une maladie quand même assez terrible à vivre. Ouais. Et moi, comme j'étais seule, j'étais plus mariée, parce que j'ai plus jamais rien eu après dans ma vie, hein. Privé. Et j'étais seule, j'avais plus d'enfants qui venaient même plus me voir, le pauvre, hein, parce que là où il est, il ne peut plus me voir. Plus de famille, plus de parents. Donc, je disais, moi, je suis ouverte 24 heures sur 24, du lundi matin au lundi soir. Et c'est ce qui s'est passé. Et je me suis défoncée dans le travail et dans les écritures. Parce que alors là, des bouquins, depuis l'âge de 12 ans, depuis l'âge que mon père m'a dit pourquoi je payais justement pour ce que ma mère lui avait fait. Quoi exactement, j'en sais rien, mais je payais pour elle. À partir de là, j'ai rempli des livres et des livres, des cahiers, j'en ai bien 50.
C'est ce que nous avons vu hier avec Christine. Hein. Christine, vous vous souvenez?
Oui, voilà. Hein,
d'écrire.
Mais ça, je les ai gardés quand même.
Ouais.
Et je sais ce qu'il faut faire. Quand je suis un petit peu plus vieille, parce que là, je continue encore un petit peu d'écrire, et quand j'aurai terminé, je sais qu'il y a des écrivains qu'on rémunère, hein, c'est normal, hein, mais qu'ils écrivent et puis ils se mettent en l'état. Hein. Parce que moi, j'écrivais sous le coup de la colère ou sous le coup, des fois, de la fatigue ou sous le coup d'une douleur que je venais de vivre par rapport, par exemple, le décès de mon fils. C'était horrible, ça, horrible.
Oui.
Quand votre enfant se suicide comme ça, et qu'on m'apprend par téléphone, parce que lui, il était sur Paris. Mais c'est inimaginable. Et donc, tout ça, c'était écrit. Mais bien sûr, il faut que quelqu'un me relise, rectifie les fautes d'élocution, grammaticale et tout. Mais je me suis déjà renseignée pour ça.
Oui.
Et je sais que ça vaut, enfin, j'estime à l'heure actuelle entre 2 à 3 000 euros pour essayer de vous refaire, ils appellent ça plutôt un cahier qu'un livre. Hein.
Oui.
Puis après, libre à vous, si vous voulez le faire paraître, d'aller chez un éditeur ou quelque chose comme ça. Mais ça, après, je ne sais pas jusqu'où il faut aller, mais je saurais bien y aller parce que moi, ça fait 35 ans que je suis seule et ça fait 35 ans que je me suis toujours débrouillée, surtout ce qui m'arrivait. Tout, je me suis défendue toute seule. J'ai subi des opérations invalidantes et tout. J'ai eu des appels de personne, rien du tout, pas un mot de qui que ce soit, même pas de ma mère, rien du tout. Rien. Comme si j'étais... Après, la folle qui elle était à l'hôpital, elle était bien, voilà. Alors, comment vous savez comment vous vivez ça?
Elle est décédée, votre... Elisabeth, votre
oui,
maman...
Oui, elle est décédée. Ouais. Oui.
Et moi, je voudrais quand même vous poser une petite question.
Mais
est-ce que vous n'avez pas pu un jour penser que ce qu'avait fait votre père... Que je ne. Voilà, je ne cautionne pas, je trouve ça odieux. Mais qu'en définitive, c'était un homme qui était malade. Et que je pense que même si ces violeurs. Tous ces gens pervers, violeurs, ce sont des gens qui sont malades et qui souffrent.
Oui.
Quelqu'un qui est dans sa peau.
Moi, je veux bien.
Comme ça.
Moi, je veux bien, mais alors pourquoi est-ce qu'ils ne se disent pas malades? Pourquoi ils ne le reconnaissent pas?
Parce qu'au bout de ma, de la pas malade, madame.
Parce que au bout de la troisième sœur, on est allé, au tribunal. Alors il a été pris en charge par un médecin. Et à la suite de ça, vous savez ce qu'on a dit à l'époque, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années. Hein. C'est pour ça que maintenant ça bouge un peu, mais il faudrait que ça bouge encore plus et plus vite. C'est ce qu'on a répondu à ma mère. On a dit ben ne faites plus approcher vos filles auprès de leur père. Voilà. Alors mais vous pensez voilà, bien que ma mère, elle était heureuse.
Juste une idée que je vous soumets.
Oui, mais je suis consciente, madame, de tout ça, parce que ayant travaillé en psychiatrie, c'est tous des cas de figure. De toute façon, je ne suis pas tout, puis je n'étais pas médecin, hein, mais c'est tous des cas de figure dont j'ai entendu parler. Et c'est pour ça que maintenant, je disais tout à l'heure, si maintenant, là, pour terminer l'émission, je voudrais dire, mesdames, messieurs, si vous voyez votre enfant en difficulté ou une amie qui est en difficulté avec son conjoint ou avec sa conjointe, ou peu importe, parlez.
Oui.
Maintenant, on a le droit de parler.
Et ne pas choisir sans la loi du silence.
C'est fini, la loi du silence.
Il n'est pas toujours facile d'intervenir sur la vie des autres.
Non, il n'est pas toujours facile. Oui. Mais il vaut mieux ça quand même que d'avoir un décès sur la conscience. Moi, je suis désolée. Je préfère qu'un jour, on me dise « Oui, la folle, de toute façon, je suis habituée. » C'est une hystérie, de toute façon, elle a été racontée n'importe quoi. Je préfère qu'on dise ça sur moi, mais qu'il n'y ait pas d'enfant ou qu'il n'y ait pas de femme d'enfant violé, voire tué aussi, de drame, comme vous dites. Voilà. Alors, c'est pour ça, après, c'est un cas de conscience, c'est personnel. Ça, j'en conviens. Mais on n'a pas le droit, nous, en tant que maman, surtout en tant que maman, parce que les enfants, ils sortent de notre corps, quand même. Mais il faut s'imaginer, quand même, ça. Bon, ben nous, en tant que maman, on n'a pas le droit de faire du mal à nos enfants. Après, s'il y a des adultes, des hommes qui font du mal, alors ceux-là, il faut les punir, il faut faire tout ce qu'on veut. Et là-dessus, je suis d'accord. S'il y avait des lois de citer pour eux, moi, je serais la première à le faire. Mais nous, en tant que maman, on ne doit pas laisser faire ça. On doit aider, en tout cas, même si on ne veut pas aller contre son époux, si on ne veut pas aller contre le frère ou la tante ou l'oncle ou le voisin ou un bon copain. Même si on ne veut pas aller contre les violeurs, on doit défendre ses enfants.
Eh bien,
alors
ce sera,
ça, là-dessus, ce sera, je suis inexorable. Et ce sera le mot de la fin, si vous permettez.
Absolument, mesdames. Un grand merci
voilà,
à vous.
Bonsoir, Elisabeth, et j'espère que vous arriverez à vous apaiser.
Oui, absolument.
Moi, il suffit que je puisse un peu parler comme ça. Voilà. Et puis, mais vous savez, je mène ma vie. Hein, et moi, je suis toute seule pendant des semaines et des semaines. Je ne me plains pas. J'ai des très bons amis, un réseau d'amis que j'ai développé autour de moi. J'en ai 3-4. Bon, ben, ça me suffit. Après, nos enfants, nos frères, nos sœurs, vous savez, comme on dit, hein, la famille, on l'a subi. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas renier. Hein. Tandis que les amis, on les choisit. Voilà. Sur ce, je vous dis bonsoir.
Je vous embrasse
merci
toutes les deux.
Merci beaucoup de m'avoir écouté à l'antenne.
Un grand merci.
Merci, bonsoir,
merci Christine.
Mesdames.
À bientôt.
Merci. Et puis à toutes les personnes qui nous écoutent. Au revoir.
Au revoir.
Bonsoir, Sana.
Bonsoir, Christine.
La libre antenne sur Europe 1. Sana Blanger.
Nous accueillons notre prochain auditeur qui est Bernard. Bonsoir Bernard.
Et bonsoir.
Bienvenue à la libre antenne.
Merci. Oui.
Alors Bernard, dites-nous.
Ben, je vous appelle. J'ai entendu une personne il y a quelques jours qui parlait, s'appelait Aude. Aude, une dame un peu âgée qui était en EHPAD, qui n'était pas bien. Elle n'était pas bien dans son EHPAD, quoi. Voilà.
Elle n'était pas, pas bien pour quelle raison?
Ça ne lui pesait pas. Je ne sais pas. Enfin, j'entendais, mais elle était tout à fait... parce qu'elle est quand même était très âgée. Elle expliquait des choses, voilà quoi. Moi, je après j'ai voulu appeler pour ça, pour parce que moi je voilà je on a eu tellement de mal à trouver une place pour ma mère en EHPAD que et trouver une bonne EHPAD. Je sais pas s'il y a une bonne EHPAD ou pas, mais un endroit où la personne est bien. Elle n'était pas bien. Quoi. Et donc on s'était laissé les coordonnées. Elle m'a rappelé quoi.
Oui.
Donc elle a quitté. Donc Aude a quitté son EHPAD. Ah. Elle est rentrée à la maison et voilà, elle est rentrée à la maison, elle est en région parisienne en même temps, et son fils, la seule fille qui est en Australie, a contacté un organisme pour un maintien à domicile et ça n'allait pas non plus. Quoi. Elle m'a dit,
vous nous appelez Bernard pour déjà, petit 1, nous donner des nouvelles d'Aude, et puis 2, voilà. Témoigner sur le fait que l'EHPAD... Ça se passe pas. Enfin, ça se passe bien aussi, en fait.
Ben voilà, c'était ça, surtout. Ouais. Quoi. C'est ça. J'ai essayé de le dire à Aude, quoi, mais voilà. Mais ouais. Ça, c'est un long parcours, un accompagnement des personnes âgées. On peut pas. Voilà. Moi, j'ai une mère qui a 86 ans.
D'accord.
Voilà, qui a une maladie dégénérative, quoi, une maladie à corps de Lévis, c'est-à-dire qui attaque son. Ses neurones, quoi, son cerveau.
Ouais.
Et donc, il y a quelques années, on avait visité une EHPAD. La directrice m'a demandé si on vous dit qu'il y a une place, vous seriez prête? Elle a dit non. Non, du moment qu'il y a mes enfants qui m'occupent de moi, enfin, voilà, quoi. C'est,
ouais.
Et c'est, le temps a fait que on s'occupait de notre mère, tout ça. Et puis, son état. Voilà.
Vous êtes Bernard, vous êtes combien dans la famille? Vous êtes une fratrie de combien?
Deux.
De deux, d'accord.
Moi, je suis un frère, une sœur. Moi, je suis l'aîné. J'ai une petite sœur qui a 6 ans de moins que moi, quoi.
Et donc, vous avez décidé ensemble avec votre sœur de l'endroit et de votre maman, absolument.
Oui.
Donc, comment ça s'est passé?
Ben, ça a été je veux dire, un long chemin, mais voilà. Mais c'est, voilà, ma mère au départ, elle a dit non. Oh non, elle nous disait, je voudrais pas être un poids pour vous, mais bon, à l'époque, elle n'était pas un poids, mais son état de santé s'est aggravé et voilà quoi. Et donc on n'a pas insisté sur le placement. Parce que, voilà, on arrivait à se débrouiller, on a eu des aides, enfin, on arrivait à peu près à se débrouiller, quoi. Voilà. Et il fallait qu'elle accepte, quoi. Et puis, à l'époque, même moi, nous, on n'acceptait pas non plus, quoi.
C'est pas évident,
voilà. On est allés. Oui, voilà, c'était tout un cheminement jusqu'au bout, quoi. Oui. C'est, voilà. Ma maman, malgré ses problèmes de cerveau, il y avait des moments très lucides. Et puis, voilà quoi. Voilà. Donc, ça a été un cheminement. Et on a réussi à trouver, avec beaucoup des aides, et puis, des aides, et puis beaucoup de réflexions, entre nous, à trouver un endroit, quoi. Après, il y avait une liste d'attente et tout ça. On a trouvé un endroit, une EHPAD, où il semble qu'elle soit bien, quoi. Une petite unité fermée.
Oui.
C'est une EHPAD assez grande, mais pour sa maladie, elle est là. Ils sont quand même, une dizaine de malades pour il y a 3 soignants. C'est quand même, c'est rare. C'est en province, c'est comme ça.
Et c'est près c'est près de chez vous?
Oui.
Oui. Ouais. C'était
au début, ma maman était dans une unité médicale dépendant de l'hôpital à 60 km de chez nous. Quoi.
Oui.
Donc c'est en banlieue, c'est à 15 km quoi. Et elle est bien, c'est surtout qu'elle est, elle est bien.
Voilà, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on
Qu'est-ce
qu'on ressent? Allez-y. Qu'est-ce qu'elle vous a dit?
C'est-à-dire que au départ, on craignait le fait de changer d'endroit. Quand elle est fragile, hein. C'est pas facile de laisser quelqu'un comme ça de fragile dans une nouvelle équipe. Et elle a demandé, c'est un personnel, je vais vous dire, ils sont formés, ils sont, voilà, ils sont
très attentionnés, sont agréables,
ils sont, voilà. Et oui, mais je vais rester là combien de temps ? Madame Denise,
ça
fait voilà. Oh, précieux. C'est vrai, vous êtes sûr ? Oui, vous pouvez rester autant. Ah, c'est bien ça qu'elle me dit. Elle pensait qu'elle était là encore, comme dans un hôpital. Donc on a trouvé. Bon, ça a pris. C'était un long chemin, mais voilà quoi. C'est...
Vous y êtes allé avec votre sœur quand vous l'avez. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent, Bernard, quand on accompagne sa maman et qu'on la laisse vraiment. Voilà. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ?
Il faut avoir confiance un petit peu quand même. Parce que. Vous voyez quelqu'un comme un bébé, vous le laissez là et puis. Voilà.
Ah, ça vous émeut, hein.
Oui. Et je vois ma soeur, c'est pareil. Je me rappelle ce moment-là, quoi. Et bon, mais on savait, on s'était renseigné et tout ça, mais on la laisse toute seule. Et puis, voilà. C'est une femme très forte et tout ça. Et puis là, voilà, un regard est perdu. Quand on part après, bon. Il faut vraiment avoir confiance, quoi. C'est comme ça, hein, c'est la vie.
Qu'est-ce qui vous rend triste, là, Bernard ? Vos larmes ?
Oui.
Qu'est-ce qui vous rend triste ?
Voilà. Elle est fragile, quand même. Elle est fragile.
C'est de la voir s'éteindre à petit feu, en fait, qui vous rend triste comme ça ?
Oui. Je pense, enfin, je sais pas, je sais pas tout le temps, mais c'est
normal.
Voilà. Moi, je m'en suis occupé pendant 3-4 ans, hein. Tout seul, quoi, c'est pas tout seul. Ma sœur travaillait, moi, j'avais arrêté de travailler, j'étais en retraite, quoi. Mais voilà, quoi.
Bon, vous...
Mais je pleure là, voilà, parce que c'est. Il y a un moment fort où vous laissez quelqu'un, comme vous laissez, une maman qui laisse son bébé à la crèche, elle peut être aussi triste, si vous voulez. Bon, là, bon, voilà, on la laisse, et puis,
On vient de recevoir un SMS de Cathy, qui dit en tout cas, bravo pour votre empathie. Vous avez réagi très vite pour aider Aude. Aude n'avait pas de démence, une grosse détresse surtout. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Cathy.
Mais c'est vrai. C'est Aude. Oui, c'est pareil. Mais je ne fais pas. Je ne fais pas que ça non plus. Il faut s'orienter vers d'autres choses. Mais c'est le genre de choses qui me. De choses de la vie qui me touchent. Quoi.
Ouais, mais c'est légitime quand ça se passe bien. On n'a qu'une maman et on. Voilà, donc vous nous appeliez pour un message positif et avec mes questions, je vous fais pleurer.
Oui, voilà.
Pardonnez-moi.
Non, je vais vous dire. Non, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a eu des hauts et des bas et que, voilà, à un moment, j'avais l'impression que ma mère était pestiférée, qu'on ne trouverait jamais de place, quoi. On trouve des EHPAD. Alors, Aude n'a pas trouvé, c'est ce que je lui ai dit, elle n'a pas trouvé un EHPAD qui lui convenait, elle ne trouve pas des aides qui lui conviennent, mais, on arrive. Il y a des gens, moi je veux vous dire, il y a des gens très bien qui travaillent dans le social.
Oui, tous ces gens dévoués, absolument.
Oui. Moi j'en ai trouvé des formidables.
Oui.
Et maman, même dans sa bulle un petit peu psychologique, elle sait, elle fait. Alors, il y a des gens qu'elle va refuser parce que ça ne convient pas. Et puis, alors, il y a d'autres qu'elle accepte, qu'elle adopte, comme ses enfants, ses petits-enfants. Et voilà, quoi.
Bernard,
et
qu'est-ce
nous, que... nous, on travaille...
Oui. Pardon, excusez-moi.
Je veux dire, avec les pads qu'on a trouvés, voilà, quoi. On travaille en équipe, c'est-à-dire que nous, on donne des choses de l'intimité de son passé, voilà, qu'ils ne connaissent pas, et puis nous, ils tiennent au courant, quoi.
Bernard, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Ah ben, je suis à la retraite.
Ah.
Madame, j'ai quand même 63 ans.
Bah écoutez, en tout cas, ça ne s'entend pas. Je me rattrape. Hein. Bon, vous
pouvez... Non, mais... non, j'ai travaillé à Paris pendant plus de 40 ans. Et puis, je suis revenu un peu en Bretagne. Et c'était pas pour m'occuper de ma mère. Et ben, finalement, c'est bien tombé un peu, quoi. Mais bon.
Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Bernard ?
Je ne sais pas. Je ne pensais pas à moi. Hein, c'est pas.
Oui, justement, vous êtes tellement plein d'empathie. Ben, de...
Peut-être un peu. Voilà. Parce que quand même, c'est. Voilà. Si, je vais vous dire, c'est. Voilà. C'est pas vous qui me souhaitez, mais moi je le sais. C'est voilà un peu parce que je me suis coupé. Quoi. J'étais séparé et j'ai plus de vie affective. Quoi. C'est voilà.
Bon alors prenez soin
en
de vous.
En dehors de ça, quoi.
Pensez à vous maintenant.
Oui. Hein voilà, c'est voilà. Ça, quoi.
Pensez à vous.
J'ai pas. C'est simple. Enfin, je veux dire, c'est simple. C'est pas si simple que ça, mais ouais, ça peut. Mais c'est ça. Après, bon, maman est au bon endroit. Voilà.
Alors, on va vous garder. On va vous reprendre au standard parce que nous avons reçu un SMS d'une personne qui souhaiterait se mettre en relation avec vous, si vous le souhaitez, bien évidemment. Bernard me touche énormément. J'aimerais faire connaissance, signé Cathy. Donc voilà, on va vous mettre en relation. et puis, ça peut être le démarrage au moins d'une belle amitié pour passer de bons moments pour les jours à venir. D'accord.
Je vous dis, j'ai eu Aude là, voilà, il y a quelques jours que voilà, on a eu au téléphone. Voilà, et c'est une dame. Voilà. Très bien. Il y a toujours. Des échanges.
Ah, un autre SMS, voyez, ça réagit aussi pour vous. C'est Bernard, en plus de votre empathie, vous avez la voix de Bourvil et ça fait du bien. Gros bisous, Alexandra. Merci, Alexandra.
Le rire de Bourvil, c'est peut-être. Bon. Je ne vais pas faire normal, c'est Bourvil.
Et puis la Ticati, non, je confonds avec Bobby Lapointe.
Non.
Bon. Je vous embrasse.
Merci, merci de votre accueil. Hein,
c'est normal.
Voilà.
À bientôt, Bernard. Et restez
c'est
en
Sana,
ligne.
Sana,
oui, c'est Sana, vous, absolument.
Sana. Voilà. Vous êtes d'origine tunisienne ou pas, non, Sana?
Absolument, j'avais... bravo. Tout
voilà, fait. Parce que j'avais une amie qui était de... Voilà.
Bravo, Bernard.
Voilà, petite question à part.
Oui, du coup, j'étais un peu... Ouh, soufflé. Je vous embrasse.
Personne ne vous dit ça, non mais, voilà.
Non, non, non.
Allez, allez. Gros bisous.
Je vous embrasse.
Kenavo, comment dire hein,
Kenavo.
Je suis en Bretagne.
Absolument.
Au revoir, Sada.
Au revoir.
Merci de votre accueil.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sana Blanger.
Nous accueillons notre dernier auditeur qui est Dominique. Bonsoir Dominique.
Bonsoir Sana.
Bienvenue à la libre antenne.
Merci, ça me fait plaisir de vous entendre. Et que vous ayez le temps encore de me prendre un peu, ça me fait du bien.
Alors je vais vous mettre tout de suite à l'aise Dominique. En fait, l'émission termine dans 10 minutes. Donc ce que je vous propose, c'est que nous commencions ensemble. Et puis demain, en fait, nous démarrons ensemble également l'émission. D'accord ?
Entendu, oui.
Voilà, comme ça, je vous mets complètement à l'aise. Dites-nous, que se passe-t-il, Dominique ?
Eh bien, moi, je voulais vous raconter un peu et surtout avoir vos conseils concernant une relation un peu conflictuelle que je vis avec mes parents.
Oui.
Dans le sens où je comprends pas leur position. Si vous voulez, bon, j'ai l'impression chaque fois d'être un peu le mauvais garçon et qui a fait une bêtise. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit. Moi, mes parents m'ont élevé très, très à la dure. Je me plains pas, j'ai reçu une éducation. Ils ont essayé quand même de permettre d'accéder à des écoles, que je puisse faire des études. Ça, je ne le reproche pas, bien au contraire. Néanmoins, ils ont toujours une attitude assez, assez dure avec moi. Et alors que je suis dans une fratrie de trois, un frère et une sœur,
Vous êtes le dernier, le premier.
Ah oui, d'accord. C'est peut-être pas les meilleures des places, mais voilà. Enfin, bref, je sais pas si ceci explique cela, j'en sais rien.
On va voir.
Néanmoins, bon, ils ont. Je dirais que nos rapports se sont un petit peu dégradés avec le temps. Pour revenir un petit peu à ma jeunesse, bon, j'ai pas le sentiment, j'ai pas de souvenir heureux de ma jeunesse. Avoir vécu, j'ai pas de pareil là où on a vécu, la maison a été vendue. J'ai aucun souvenir heureux dans cette maison.
Vous avez grandi où, Dominique?
Où, c'est-à-dire
dans quelle région? Oui.
C'était sur Montbéliard.
D'accord.
Dans un petit village à côté de Montbéliard.
Donc c'était une maison en fait, hein?
Oui,
appartement. Voilà.
Non, on vivait à la campagne, mes parents avaient un train de culture, ce qui fait que. On avait du travail en permanence.
D'accord.
Après l'école, c'était le travail des champs.
Oui, d'accord.
Et il y avait j'avais une échappatoire. C'était une femme que j'adorais, c'était ma grand-mère. Et cette femme, si vous voulez, c'était. Et tous mes souvenirs heureux, je peux dire que je les ai là-bas.
Oui.
Et quelque part, le temps que je pouvais consacrer à aller la voir, j'y allais.
D'accord.
Après, bon, le temps a passé. Bon, ma grand-mère est décédée. Ça a été un grand choc de ma vie.
Oui.
Ça m'a un petit peu, je dirais, conditionné par rapport à un emploi que j'ai voulu partir de ce coin. Ce qui fait que j'ai profité pour m'éloigner de la maison. Et je suis parti loin, le plus loin possible.
Vous aviez quel âge?
Je suis parti, j'avais une vingtaine d'années. Hein.
D'accord.
Donc, même un petit peu plus. Ce qui fait que je suis parti loin.
Vous aviez encore... Vous n'aviez pas encore fini vos études, en fait.
Si, j'ai terminé mes études. Je suis parti de la vie active. Il se trouve que peu de temps après que j'en avais commencé mon premier emploi, c'est là, finalement, qu'elle est décédée. Donc là, ça m'a un petit peu perturbé.
D'accord.
Et j'ai pris une décision que je ne pensais pas moi-même prendre. C'était finalement de partir loin. Et donc, je suis parti loin.
D'accord.
Et disons que je suis parti d'un cours de métier qui m'a éloigné, et ça, je trouve que c'est ce qui m'a un peu sauvé moralement, et ça m'a aidé à me reconstruire. Et je me suis senti heureux finalement qu'à partir du moment où je me sentais loin de là où sont mes parents.
Qu'avez-vous exercé comme activité?
Je suis parti dans la gendarmerie.
D'accord.
Et là, ça m'a permis de voyager, j'ai construit ma vie, je me suis marié, j'ai des enfants. Et toute ma vie, finalement, je l'ai passée loin. Ce mal-être, si vous voulez, je le ressens à chaque fois que je reviens, puisque bon, à la force des choses, j'ai acheté une propriété à une vingtaine de kilomètres de là où ils habitent. Et systématiquement, dès que je reviens, je me sens un petit peu, je me sens mal à l'aise. Je ressens trop leur présence. Néanmoins, j'ai pas coupé les ponts puisque j'essayais d'aller les voir. J'essaye de brosser un peu rapidement aussi le portrait de ma vie parce que je veux pas rentrer trop dans les détails, mais c'est pour vous donner un peu le contexte.
Oui.
Il se trouve qu'après, j'ai eu plusieurs fois j'ai eu mes enfants et je sentais qu'il y avait, qu'il y avait une distance qui était entre eux et mes enfants, quoi. Ils ne considéraient pas mes enfants comme je dirais qu'ils considéraient les enfants de ma sœur, par exemple. Et je pense, bon après j'explique aussi le fait que je sois loin, quelque part je me marginalise un petit peu vis-à-vis de la famille, hein, comme beaucoup de gens qui vivent loin de chez eux, par rapport à la fratrie qui pourrait être encore dans l'environnement proche des parents. Forcément, il y a des choses qui se font entre eux que pour nous, on ne sait pas, quoi.
Des liens,
on ne voit pas.
Du lien, en fait. Donc, des liens plus forts.
Oui, probablement, oui. Même si eux revendiquent le fait que ça n'est pas vrai, j'ai toujours ressenti une différence.
Alors, malgré tout. Quand vous dites « je ne me sentais pas à l'aise déjà quand j'y allais avant de créer ma structure familiale, si je puis dire
ouais. ».
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben, en fait, pour tout dire, je me sens presque coupable de le dire, mais je n'ai pas de sentiment vis-à-vis d'eux. On pourrait parler d'amour peut-être pour ses parents, mais
oui.
Moi j'ai envie, toutes ces familles où, quand j'entendais cette semaine là, une dame qui avait perdu sa maman, moi je l'envie cette dame qu'elle pleurait parce qu'elle aimait sa maman. Et moi, j'ai pas ce sentiment vis-à-vis d'eux. Et je me culpabilise, je me sens un peu, ce que je vous disais avant, un peu le mauvais garçon, vous voyez, qui...
D'accord.
Qui n'a pas... qui n'est pas redevable vis-à-vis de ses parents. Et le temps passant, maintenant, j'ai plusieurs fois quelques altercations avec eux.
Ouais.
Et quelque part, j'en viens à me dire, je coupe les ponts, j'ai plus envie du tout, vous voyez.
Donc, pas de... Vous ne pensez pas à eux? Vous ne les appelez pas?
Non, j'ai décidé de plus les appeler parce que, non, systématiquement, dès que je les appelle, j'ai l'impression que c'est des reproches et après, moi, je culpabilise.
D'accord.
Et
alors, donc ça, c'est la relation avec vos parents. Et en tant que grands-parents, est-ce que...
Ah, bah alors là, c'est là où moi, ça me blesse aussi puisque...
Oui.
Quelque part, inconsciemment, ils blessent mes enfants et ça, je peux pas leur pardonner. Il y a eu différentes affaires qui ont fait que ils ont blessé mes enfants et ils n'ont pas voulu donner l'opportunité à mes enfants de s'expliquer, quoi. Donc ça, quelque part, je leur en veux. J'arrive à passer sur ce qu'ils m'ont fait.
Mmh.
Mais vis-à-vis de mes enfants, non, ça, j'ai du mal à le concevoir. Et qu'ils puissent faire une différence entre mes enfants et les autres enfants. Quoi. Donc,
D'accord, Dominique. On en parle demain?
D'accord. Oui, très bien.
D'accord.
Très
donc, bien. J'ai pris des notes et on démarre avec vous l'émission de demain.
Entendu, bonne soirée.
À vous aussi, à demain,
merci.
Dominique.
Au revoir.
Au revoir. Un grand, grand merci pour cette émission vraiment très, très, très poignante. Je repense à Christine, à Elisabeth, à Bernard et puis nous espérons vraiment qu'Annette que ça ira et qu'elle nous donnera des nouvelles. Donc demain, la thématique autour de l'échec. Donc je compte sur vous pour nous contacter et puis tout de suite, vous retrouvez les histoires extraordinaires de Pierre Belmar. Je vous souhaite une très 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 bonne nuit et je vous dis donc rendez-vous à demain. Je vous embrasse. Il est 1h et vous écoutez Europe 1.